Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau mag de Canal Sud. Et ce soir un magazine qui pas que comme bah oui, c'est un magazine intermittent du spectacle pour désigner ces artistes et techniciens qui travaillent par intermittence, alternance de période d'emploi et de chômage pour des entreprises du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel et qui bénéficient, suivant des critères de nombre d'heures travaillées et de métiers, d'allocations chômage un tout petit peu plus favorable que le régime général. Et c'est les intermittents du spectacle qui nous intéressent ce soir, leur régime et surtout leur mobilisation. On a appris aujourd'hui que à Rio Loco, le festival, la grève a été votée, une grève en tout cas partielle. À Montpellier, c'est déjà le cas. 8 théâtres toulousains se sont mis en grève au soutien aux intermittents. Le Grand Rond, le Hangar, le Ring, le Chien Blanc, le Pont Neuf, la Cave Poésie, le Pavé, le Fil à Plomb. Voilà. Et pour parler de tout ça, on va avoir par téléphone pour commencer Mathieu Grégoire, qui est maître de conférence à l'université Picardie Jules Verne. Il est sociologue et qui s'est spécialisé dans l'histoire des luttes des intermittents et des travailleurs du spectacle. Et puis à l'admi, on joindra les intermittents qui sont pas en studio mais qui sont en lutte, en action, et qui nous parleront de leur action. Bienvenue dans le mag de Canal Sud. Oui, bonjour Mathieu. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ?
Oui, je suis maître de conférence en sociologie à l'université de Picardie et j'ai travaillé longuement sur l'histoire des luttes des intermittents du spectacle d'une part, et j'ai aussi coproduit un rapport sur les propositions des intermittents qui visaient à chiffrer leurs propositions.
D'accord. Alors donc ça fait un certain temps que tu travailles sur ce sujet. Quand tu vois la mobilisation là qu'il y a aujourd'hui, ça t'inspire quoi à voir ce mouvement qui se développe un peu partout ?
C'est la réaction, je pense, à une certaine manière à deux choses, c'est-à-dire d'une part à l'arrogance du MEDEF et d'autre part à un discours assez bizarre du Parti Socialiste, du gouvernement, qui, d'une certaine manière, laisse entendre que quoi que le MEDEF décide, bien, ce sera ce qui sera appliqué. Donc, du côté du MEDEF, on a cette arrogance depuis un bon moment. Signe de cette arrogance, le fait de ne s'être même pas rendu aux auditions qui étaient organisées par les parlementaires un an et demi avant la négociation de la convention UNEDIC. Signe de cette arrogance, le fait de ne jamais intervenir sur aucun plateau de télévision ou de radio, etc., pour justifier, pour expliquer simplement les choix qui ont été faits de cette réforme.
On a trouvé aucune intervention en cherchant,
il ne parle pas. Alors c'est très drôle, on se fait inviter à la radio, et puis du coup les journalistes essayent évidemment d'organiser le débat, d'avoir un pour, un contre, etc., donc invitent sans arrêt le MEDEF ou leur collègue de la CGPME, mais à chaque fois, il n'y a personne. Donc on se retrouve, je me suis retrouvé plusieurs fois à débattre avec des gens avec qui j'étais tout à fait d'accord.
Comme souvent dans les débats télévisés. Et alors, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne connaissent pas très bien la situation, parce que quand on entend parler des intermittents, c'est souvent technique, on parle de conventions, ouais. On parle de régime, de machin. Alors, on parle d'abord de quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce statut des intermittents ?
Alors, il n'existe pas à proprement parler de statut des intermittents. Le statut, c'est un terme que les intermittents utilisent comme ça quotidiennement, mais il n'y a pas juridiquement de statut. Il y a un régime d'indemnisation du chômage. Et encore, il faut bien s'entendre sur ce que ça veut dire régime. Parce que généralement, les gens qui utilisent ce mot régime entendent une caisse particulière pour les intermittents. Mais il n'y a pas de caisse pour les intermittents. Il faut entendre régime comme un régime alimentaire, c'est-à-dire un ensemble de règles. C'est un ensemble de règles spécifiques pour un public spécifique au sein d'une seule caisse qui est l'assurance chômage. Mais c'est très important à comprendre parce que le principe qui fonde cette caisse, c'est le principe qui fonde toute la sécurité sociale depuis le Conseil national de la résistance, c'est la solidarité interprofessionnelle. Donc on a une seule caisse qui, avec un règlement, c'est le règlement du régime général, et puis des annexes, donc on parle d'annexes comme on parle d'annexes dans un mémoire universitaire, qui sont des règles spécifique à des populations spécifiques. Alors, les populations spécifiques, c'est les handicapés, les bûcherons-tâcherons, les hôtesses de l'air, les dockers, les intérimaires et les intermittents du spectacle.
Et alors, les intermittents, ce qui est spécifique pour eux, c'est qu'ils, justement, c'est leur nom même, ils ne travaillent pas tout le temps. Ils travaillent de manière intermittente.
Alors bon, ils travaillent tout le temps, mais ils ne sont en emploi, ils ne sont pas en emploi tout le temps. C'est important de distinguer bien le travail, c'est-à-dire l'activité productive. Tous les jours, ils ont des emplois du temps, souvent de ministres. Mm-hmm. C'est assez difficile d'avoir des rendez-vous avec eux parce qu'ils ont toujours quelque chose à faire. Mais effectivement, ils ne sont pas en emploi, c'est-à-dire en contrat de travail tout le temps. Le contrat de travail est ponctuel, l'emploi est ponctuel. Et donc, il arrive par exemple qu'il y ait des contrats de travail qui durent une journée.
D'accord.
Une journée, et encore, la réalité du travail effectué, c'est un cachet. Donc, c'est par exemple une représentation. Si vous embauchez pour le bal de votre village, je sais pas quoi, un musicien, vous allez lui donner un cachet, il sera payé, ce sera l'équivalent d'une journée de travail qui sera comptabilisée dans son contrat de travail.
Et alors, quand on entend parler des intermittents, je reprends encore le discours officiel parce que c'est le seul qu'on entend actuellement, ou aussi peu en tout cas, c'est qu'on parle d'économie. On parle toujours de faire des économies et on parle surtout d'un fameux milliard d'euros, un énorme milliard que représenterait ce régime d'un milliard d'euros. Alors, qu'est-ce que c'est que ce milliard ? D'où il sort ?
Le milliard d'euros, techniquement, c'est la différence entre les cotisations versées par les intermittents du spectacle et les allocations qu'ils perçoivent. Donc il y a 200 millions environ de cotisations versées et il y a 1 milliard 200 millions d'allocations perçues. Alors évidemment, c'est une différence qui est importante et qui, a priori, peut choquer. C'est-à-dire, on peut se dire, effectivement, c'est bizarre, pourquoi on paierait 1 milliard pour eux, etc. Bon. Le truc, c'est que c'est précisément la nature même d'une assurance chômage, même d'une assurance, que d'équilibrer ses comptes de cette manière-là. C'est-à-dire qu'une assurance, ce qu'elle vise, c'est de, si elle vise un bilan nul, disons, qu'au final, il y ait autant de cotisations que d'allocations, ce qui n'est pas le cas des assurances privées qui veulent faire du profit, mais disons qu'une assurance sociale, c'est ça son but, le bon gestionnaire de l'assurance chômage devrait vouloir arriver à autant de recettes que de dépenses, ben, il se trouve que d'un côté, il a des gens qui sont en CDI et qui tombent jamais au chômage. En tout cas, ils tombent pas dans l'année au chômage. Donc ces gens-là, ils cotisent tout le temps sans percevoir d'allocation. Donc on a de ce côté-ci forcément un excédent. Des gens qui cotisent sans toucher parce qu'ils ne sont pas au chômage. Et donc si je suis un bon gestionnaire de l'UNEDIC, il faut que de l'autre côté, j'ai le déficit strictement symétrique. C'est-à-dire que le déficit que j'ai de ce côté, de deuxième côté, soit équivalent à l'excédent que j'ai avec ces gens qui sont en CDI tout le temps. Donc par nature, de cet autre côté, on a du déficit. C'est la fonction même d'une assurance. Une assurance, ça vise à équilibrer des petits et des gros déficits par des petits et des gros excédents. Oui, donc si on zoome sur une population particulière qui se trouve être bénéficiaire de l'assurance chômage, automatiquement, on va voir apparaître un déficit. Alors on le fait pour les intermittents parce que il est tradition désormais de taper sur les intermittents, mais si on le faisait sur les intérimaires, ce serait encore pire. On aurait 300% du déficit, etc., qui serait représenté par le déficit des intérimaires.
Mais tout comme les handicapés, j'imagine, si on zoomait sur leurs indemnisations maladie, pompent énormément de choses. Mais oui, mais c'est normal, parce que c'est justement la solidarité qui s'exerce, si je comprends bien. En fait, c'est comme comparer des carpes et des lapins, quoi.
Oui, à ceci près que, bon, les intermittents ne sont pas des handicapés du marché du
oui,
travail.
Oui, certes.
Non, mais c'est parce qu'on a tendance à vouloir comparer à des maladies, c'est pas exactement ça. Une bonne comparaison, c'est avec les femmes. Les femmes et les congés liés à l'arrivée d'un enfant. Être une femme, c'est pas a priori une maladie. Avoir des enfants, c'est pas a priori une maladie. Simplement, il y a des règles spécifiques pour les femmes et pour les hommes dans la gestion des congés maternité ou paternité.
Bien sûr.
Et si on faisait le bilan et qu'on jouait au même jeu, un petit peu idiot, voire complètement stupide, de voir qui paye quoi. Mm-hmm. Alors, on se rendait compte que les femmes qui ont des salaires inférieurs, qui travaillent à mi-temps, qui donc cotisent au final beaucoup moins que les hommes, perçoivent en congé maternité, nettement plus que les hommes. Alors les hommes pourraient dire, écoutez, c'est pas normal, c'est pas à nous de payer les congés des femmes. De la même manière, C'est-à-dire que si on est dans cette logique-là, dans cette philosophie-là, de responsabiliser des groupes, de dire chaque groupe doit s'assurer pour ses propres risques, eh bien on en arriverait à ça, par exemple, en disant la caisse des femmes est déficitaire pour les congés maternité. Donc aux femmes à payer davantage ou aux femmes à être moins bien rémunérées, etc.
Et on voit bien l'absurdité du système.
Oui, on pourrait aller très très loin dans l'absurdité, parce qu'évidemment les hommes diraient ah ben non, nous on veut pas, mais les femmes ménopausées pourraient aussi dire non, mais nous on veut pas, on n'a pas de risque d'avoir des enfants. Enfin, on pourrait aller très très loin dans la bêtise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la solidarité interprofessionnelle, la solidarité de tous les salariés dans le même lot, ne vaut que si on ne sépare pas les responsabilités de chacun. C'est ça la révolution qui s'est opérée en 1945 avec le programme du Conseil national de la résistance. C'est l'idée d'une solidarité interprofessionnelle générale. Et c'est ça qui fait sa performance aussi économique.
Eh ben on va parler tout de suite de ça. Je te propose une petite virgule musicale d'une minute et on continue justement sur l'histoire du mouvement intermittent, parce que tu as beaucoup travaillé dessus et elle est assez éclairante justement sur aujourd'hui. On s'écoute la chanson plus bifluorée, l'intermittente.
Ram, 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 acédic, expédida, qui va perdre ses droits, c'est toi.
Oh non, pas moi, oh!
En rang serré, l'ennemi nous assaille. Autour de notre drapeau, regroupons-nous. Que nous apporte la mort menaçante. Pour la sédique, soyons prêts à souffrir. Mais le musicien.
La section de Nîmes, s'il vous plaît, devant la préfecture,
ne doit
merci.
Qu'un seul étendard. Un seul mot d'ordre, travail
et justesse.
Suivons le rythme sur un tympan d'acier. Aux frères, aux armes, pour notre lutte, pour la victoire de tous les intermittents.
Vous suivez derrière, merci. Suivez derrière.
Riche des congés, spectacle d'effraiement. Les producteurs voteraient dans la richesse.
Et tout le monde chante, merci.
Les artistes affamés. Ceux qui sont morts pour nos grandes idées n'ont pas en vain combattu et chanté contre les bourgeois et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris. Nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux. Aux frères, aux armes, pour la lutte, pour la victoire de tous les intermittents. Un seul mot d'ordre, frérots et vignettes, fiche de paix, congé, spectacle, défraiement, défraiement.
Merci, c'est super.
Petite note d'humour, évidemment, toujours dans le magazine. On est toujours avec Mathieu Grégoire au téléphone. Tu nous parlais justement à l'instant que le fondement du régime des intermittents, c'est le Conseil national de la résistance. Ça remonte aussi loin que ça. Tu me parlais au téléphone avant l'émission que ça remontait même au début des années 20, l'histoire du régime des intermittents. Est-ce que tu peux nous retracer un peu cette histoire sociale qui n'est pas très connue?
Oui, alors le régime en tant que tel, c'est-à-dire cette manière-là de socialiser le salaire et de fonder les revenus des intermittents en partie sur l'assurance chômage, ça date pas des années 20, ça date en gros de 1979. Mais auparavant, il y a eu tout un tas d'essais, de tentatives des syndicats des intermittents pour revendiquer le droit, au fond, à une sécurité économique malgré une discontinuité de l'emploi. Ça, c'était une lutte qui est prégnante pendant tout le XXe siècle, c'est comment faire pour pouvoir pouvoir vivre, pouvoir nourrir ses enfants, pouvoir avoir un salaire décent, malgré la discontinuité de l'emploi. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est parce que, évidemment, aujourd'hui, ce modèle-là de flexi-sécurité, ce modèle-là de discontinuité de l'emploi tend à généraliser. Donc, on peut être très intéressé par cette histoire des intermittents. Alors, globalement, il y a eu beaucoup de tentatives, je ne vais pas revenir sur chacune, mais dans les années 20 et 30, le modèle, c'était un petit peu le modèle, un modèle élitiste, malthusien, qui n'est pas franchement attirant aujourd'hui, qui consistait à créer la rareté, c'est-à-dire sur le modèle un petit peu des taxis. C'est-à-dire, on faisait on militait pour une licence professionnelle, et en disant que seuls ceux qui auraient le droit à la licence auraient le droit de jouer. Donc il s'agissait d'empêcher les autres, finalement, de travailler.
Comme des médecins, quoi.
comme les médecins, comme toutes les professions qu'on dit professions à ordre, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre de comme les dockers aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire avec l'idée que c'est le syndicat qui maîtrise lui-même le marché du travail, qui impose les tarifs au patron de manière unilatérale, sans passer par des conventions collectives, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes à voir, et c'est surtout comme le monde du spectacle dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire Hollywood, ça fonctionne de cette manière-là. Soit vous êtes union, vous appartenez au syndicat, et vous pouvez jouer pour telle et telle grosse major, soit vous n'y êtes pas, auquel cas vous n'avez pas accès, vous avez accès à un marché du travail secondaire, mal payé, etc. etc. Donc il y a eu ces tentatives-là en France aussi, mais qui aujourd'hui paraissent totalement, complètement déconnectées de la réalité.
Et comment on est arrivé à créer justement, à inventer ce statut qui est assez génial en fait, parce qu'il redistribue, il est social, il va même plus loin que les institutions du salaire actuelles, j'ai l'impression, il pousse un petit peu un fragment de révolution.
Ah oui, ça c'est clair. Simplement, les militants, les syndicalistes aiment bien pouvoir raconter l'histoire en disant lutte sociale, conquête sociale, etc. Bon, la réalité, elle est souvent plus compliquée, plus triviale. Et il y a beaucoup d'ailleurs d'institutions du salariat aujourd'hui qui ont été des inventions patronales. Hein. Je veux dire, le salaire indirect, la sécurité sociale, à l'origine, c'est le paternalisme, etc. C'est les ouvriers qui ont pris le pouvoir sur ces institutions d'un salaire indirect, etc. Ben là, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que, en gros, c'est né au milieu des années 60, un moment où tout le monde globalement s'en fichait. C'est d'ailleurs Jacques Chirac, qui était secrétaire d'État du gouvernement Pompidou, qui a signé les premiers agréments de cette convention, mais c'était purement symbolique à l'époque. Les syndicats ne revendiquaient pas plus que ça l'indemnisation du chômage. C'était extrêmement dur d'accéder à l'indemnisation du chômage à l'époque, et c'était une complémentaire chômage, puisque le chômage s'est servi par l'État. Donc au final, au moment où c'était inventé, c'était pas quelque chose d'important. Mais ça l'est devenu petit à petit, ça l'est devenu en 79, avec le passage à 520 heures, avant, il fallait faire 1000 heures par an, et ensuite en 79, il a fallu faire 520 heures, puisque c'était 13 semaines à 40 heures. On est passé aux fameux 507 heures quand on a eu les 39 heures, puisque c'était 39 fois 13, 507.
Avec Mitterrand.
Avec Mitterrand, on n'a pas continué avec Martine Aubry de faire 35 fois 13 pour au moment du passage des 35 heures. Les syndicats auraient pu revendiquer ça, ils l'ont pas fait, ou ils l'ont fait, mais ils n'ont pas été entendus. Mais donc, il y avait cette logique-là, finalement, que si vous aviez travaillé 3 mois, 13 semaines, vous aviez le droit à un an d'indemnisation. Ça, c'était la situation en 79 pour tout le monde, pour le régime général, comme pour les intermittents. Mais à partir de là, bah, finalement, les intermittents se sont rendus compte de la potentialité de ces institutions, c'est-à-dire le fait qu'on pouvait indemniser le chômage interstitiel. On pouvait avoir une indemnisation de ces périodes de non-emploi entre deux cachets, etc. Et ça a été une révolution. Et puis petit à petit, donc du coup, tout le monde s'est senti concerné et s'est battu à partir de 86, en gros. Il y a les premiers mouvements où les gens se sont battus a posteriori pour défendre ces institutions.
Et alors justement, ce mouvement des intermittents, en tout cas depuis la grande mobilisation de 2003, c'est quelque part un mouvement un peu exemplaire parce qu'ils sont très puissants, médiatiques, nombreux, inventifs. C'est des formes, on peut appeler ça nouveaux mouvements sociaux, dans les livres on les appelle comme ça, mais il y a effectivement un certain renouvellement des manières de lutter. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment luttent les intermittents? Parce que c'est assez intéressant généralement.
Oui, alors s'il y a d'abord, avant de comprendre comment ils luttent, c'est pourquoi ils luttent de manière si efficace.
Et, c'est vrai.
À chaque fois, ils sont sous-estimés. C'est incroyable à quel point le MEDEF ou les différents gouvernements considèrent que c'est bon, leur machin va passer, alors qu'en réalité, ça ne passe quasiment jamais. C'est-à-dire qu'on a vraiment une intelligence politique et une puissance de ce mouvement qui, à chaque fois, étonne. Alors, la raison, elle est assez simple. Généralement, on considère que dès qu'on est précaire, qu'on n'est pas fonctionnaire, avec un emploi stable, on a du mal à se mobiliser. Certes, enfin, quand on est intermittent, on peut aussi plus facilement, même si c'est pas ce que je dis doit être nuancé ensuite, mais on peut plus facilement dire merde à son patron, puisqu'on a l'habitude de passer d'un patron à un autre, etc. Et puis, comme le disait le baron Célière, ces gens-là ont du temps pour manifester entre deux emplois. Ils peuvent aller à la manif sans se mettre en grève, etc.
Bon, c'est une action culturelle en soi, d'ailleurs.
Oui, voilà. Bon, mais en fait, la différence essentielle aussi, pour expliquer l'intelligence politique, à mon avis, des intermittents, c'est que, disons, un ouvrier, quand sa boîte ferme, il va jouer une fois le rôle de sa vie, c'est-à-dire que ça va être le plan social, il va devoir élaborer sa stratégie, etc. Mais tout est prototypique, c'est-à-dire que c'est sa première fois et sa dernière fois qu'il va lutter. Alors que les intermittents, depuis 20 ans, on leur fait le coup tous les 3 ans. Donc petit à petit, ils apprennent. Ils apprennent, et quand vous regardez les images d'archives, etc., vous voyez les mêmes têtes, vous voyez les mêmes personnes qui se mobilisent et qui sont du coup de plus en plus malins politiquement. Les preuves de cette intelligence, c'est ce que vous avez peut-être vu déjà il y a un an et demi, 2 ans avant la réforme. On a vu des vidéos sur Internet commencer à circuler pour dénoncer la propagande qui était faite, enfin les éléments de langage, comme on dit aujourd'hui, du
propagande, ça passe aussi.
D'euros. Voilà, non, mais maintenant, aujourd'hui, on dit éléments de langage. voilà, donc c'est, je pense qu'ils ont extrêmement bien joué leur coup. Ils savent exactement à quelle porte sonner. S'appuyer aussi sur des parlementaires qui les suivent depuis 2003. Je pense notamment à Pierre Laurent, à Noël Mamère, à Laurent Grandguillaume, PS, etc., qui sont des députés qui suivent depuis 2003 le mouvement et qui donc sont au courant, finalement, des revendications, sont au courant de la situation et comprennent de manière assez claire, beaucoup plus claire que leurs collègues, les enjeux.
Tu me parlais du mouvement ouvrier, et ça me fait penser leur situation à certains, on va dire, corporations, si le mot est pas juste, mais de certaines corporations ouvrières au début du siècle, dans la métallurgie, etc., qui avaient une intelligence collective, qui avaient eu des formations même en interne, et qui avaient une émulation dans le mouvement social lui-même, qui n'était pas aussi structuré, hiérarchisé que sont certains syndicats aujourd'hui. Et il y a un peu quelque chose comme ça. Est-ce que je me trompe en disant ça ?
Oui, bah c'est sûr que là, il y a énormément de militants, énormément de mouvements. Avec la forme coordination en elle-même, qui est très horizontale, finalement, autorise aussi des choses assez informelles, dégagées, même si au final, même s'il ne faut pas le dire, hein, l'horizontalité, dire on est tous égaux, c'est l'AG qui est souveraine, etc., ça a ses limites aussi, parce qu'on voit bien qu'à force, certains se spécialisent, certains acquièrent des compétences fortes dans des domaines et deviennent un peu incontournable. On voit bien la figure, par exemple, de Samuel Churin dans la coordination, qui est une figure charismatique, disons, qui est celui qui est capable d'aller sur le ring de boxe sur un plateau télé et de pas défaillir. Enfin, vraiment.
Et de mener le bassin.
Et évidemment, donc on met n'importe qui à sa place, ça passe beaucoup moins bien. On a aussi, alors, de l'autre côté, la CGT, alors là, qui est mieux organisée, enfin organisée de manière plus structurée, comme les le syndicat habituellement, mais qui a aussi une situation de quasi-monopole, c'est-à-dire que les autres syndicats sont extrêmement faibles. Donc on a une CGT qui est aussi très forte parce que elle a réussi historiquement à s'imposer comme le seul acteur syndical majeur du secteur.
Pour revenir un peu à l'actualité, parce que c'est ce qui nous occupe là aujourd'hui, on sera en ligne là dans quelques minutes avec les copains qui occupent en ce moment un théâtre de Toulouse, sachant que, je ne sais pas si tu es au courant, il y a 8 théâtres toulousains qui se sont mis en grève en soutien aux intermittents, on a eu ça l'info tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe là actuellement ? Il y a une histoire d'agrément, d'un accord en fait, tout partirait de là, d'un accord signé le 22 mars par les syndicats, donc est-ce que la CGT l'a signé, et le patronat sur la nouvelle convention d'assurance chômage. C'est ça le point de départ.
Oui, alors donc les syndicats, donc c'est la CFDT, la CFTC et FO, du côté salarié, qui a signé donc cet accord du 22 mars sur l'assurance chômage. Donc évidemment, la CGT n'a pas signé, et la CGT dénonce cet accord depuis le début.
D'accord.
Et ça a été signé avec le MEDEF, la CGPME. Bon. Donc, le souci essentiel, c'est que... Bon, le premier souci, c'est qu'il y a un déni de démocratie dans la manière dont ont été signés, négociés cet accord. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a donné un pouvoir aux dix partenaires sociaux, aux supposés partenaires sociaux, après 2002, disons. On a dit, on va respecter votre pouvoir sur un certain nombre de choses, dont l'assurance chômage. Simplement, on n'a pas fait vraiment un transfert de la démocratie politique vers la démocratie sociale, puisque ce qui se passe, c'est quelque chose d'hallucinant, où il y a un fonctionnement qui n'est absolument pas démocratique. Alors, pour dire les choses, déjà, ça se passe au MEDEF, dans les locaux du MEDEF, ça se passe sur la base d'un texte proposé sur le MEDEF, que les syndicats peuvent, s'ils le désirent, amender, négocier, mais la base, c'est quand même le MEDEF qui le propose, et sans aucune intervention de l'État, sous aucune forme. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que ce soit un inspecteur du travail, un haut fonctionnaire, je ne sais pas quoi, qui arbitre ou qui préside les débats pour veiller à la loyauté des débats, etc. Non, là, l'État n'est absolument pas là. Et pour tout dire, à la vraie négociation, c'est-à-dire autour de la table de négociation, eh bien, il n'y a eu que la CGT. C'est-à-dire que la CGT a passé sa journée, du matin jusqu'à tard dans la nuit, minuit, 1h du matin, toute seule, à attendre que la suspension de séance se finisse. La journée a été une entière suspension de séance.
Ah oui,
et
d'accord.
Les choses se négocient ailleurs, dans les étages, dans les bureaux du MEDEF, en bilatéral, etc. Et la CGT est simplement bien nourrie, est là, à regarder et à attendre que les autres reviennent. Et ensuite, reprise de la séance à 1h du matin, qui dure un quart d'heure, signature, merci, au revoir.
D'accord.
Donc on a quelque chose qui est hallucinant, avec un MEDEF qui ensuite ne communique absolument pas sur les décisions qui ont été prises, etc. Enfin bon, on a un déni de démocratie qui est effarant. Les propositions des intermittents n'ont jamais été entendues, jamais été étudiées. Les propositions des parlementaires, qui sont censés quand même représenter le peuple, n'ont pas été entendues, qui ont travaillé pendant un an à l'Assemblée nationale, pendant 6 mois au Sénat, pour faire des recommandations, des rapports, des suggestions, etc. Tout ça a été écarté d'un revers de la main. Et au final, bon, on a signé un truc entre amis ou entre partenaires d'un jour à l'UNEDIC. Donc ce que réclament les intermittents, c'est à minima qu'il y ait un système beaucoup plus démocratique, que soient entendues les propositions. Et voilà. Donc d'un côté, on a des intermittents qui jouent la démocratie, et de l'autre, on a clairement des supposés partenaires sociaux qui ne jouent pas cette démocratie, qui jouent des petits arrangements auxquels... on n'a pas grand-chose à dire.
Et en plus de ça, avec tout ça, on a un État qui est dirigé par le PS aujourd'hui, et un PS qui s'est toujours affiché en soutien, en tout cas plus ou moins, aux intermittents depuis 10 ans, qui était toujours là derrière. Et puis, et même la veille de l'élection, ils étaient encore favorables aux intermittents, et paf, ils arrivent au pouvoir, et ils se trouvent justement à retirer complètement ce qu'ils racontaient, à suivre complètement le MEDEF, ce qui fout pas mal en rogne, j'ai l'impression, les intermittents aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une certaine trahison, une de plus, on va dire, mais bon, c'est toujours une de trop.
La trahison, si on peut employer ce mot, elle s'incarne éminemment dans le rôle que joue le ministre du Travail. François Rebsamen, 3 semaines avant d'être nommé ministre du Travail, il pensait être nommé ministre de l'Intérieur, mais enfin il a été nommé ministre du Travail, il avait signé 3 semaines avant la tribune du comité de suivi. C'est-à-dire la tribune où des différents parlementaires de différents bords soutenaient les propositions des intermittents. Et donc 3 semaines avant, il soutient les propositions des intermittents, il devient ministre du Travail et il explique tranquillement que, ma foi, l'accord qu'il a devant lui est majoritaire et qu'il a une lecture purement administrative de son droit d'agréer ou non l'accord, et que, ma foi, c'est ce qui a été choisi, c'est pas au gouvernement de choisir d'agréer ou pas d'une manière politique. Donc c'est évidemment problématique, puisque ça veut dire d'une certaine manière que qu'on vote à droite ou qu'on vote à gauche, qu'on vote pour l'UMP, qu'on vote pour le PS ou je sais pas quoi, au fond, l'assurance chômage, c'est le précaré du MEDEF. Donc c'est ça qui est compliqué d'un point de vue démocratique, c'est vous dites aux électeurs, on peut vous raconter ce qu'on veut à l'élection présidentielle, qu'on soit de droite ou soit de gauche, de toute façon... on n'a pas de pouvoir sur le, on refuse de prendre du pouvoir sur le, l'assurance chômage et donc sur le devenir non seulement des intermittents, mais de tous les salariés à l'emploi discontinu. Je voudrais juste dire un truc là-dessus qui est important. Ouais.
Ce que je voulais te t'amener à dire justement pour conclure, c'est que c'est pas que les intermittents en fait, c'est tout ça, ça concerne tout le monde.
Ça concerne tous les chômeurs, mais ça concerne au-delà des chômeurs, ça concerne évidemment tout le salariat dans le pays. Entre 96 et aujourd'hui, les chômeurs dits de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui sont tout le temps, pendant tout le mois au chômage, qui ne travaillent pas une seule heure, ils sont passés de 3 millions à 3 300 000. Donc une hausse normale qui suit l'augmentation de la population. Les chômeurs de catégorie B, c'est-à-dire ceux qui sont en activité réduite, ceux qui alternent de l'emploi et du chômage, ils sont passés de 500 000 à 1 700 000. C'est une hausse énorme. Tout cela, ce sont des intermittents. Ce sont des intermittents qui ne sont pas des intermittents du spectacle, mais qui sont des intermittents quand même.
Intermittents de l'emploi.
Et ces gens-là, intermittents de l'emploi. Ils ont de l'emploi, du chômage, ils cumulent les deux dans un mois donné. C'est le phénomène qui se dégage des tendances du marché du travail depuis le milieu des années 90. Donc à ces gens-là, est-ce qu'on leur dit, comme on dit depuis 40 ans, tout parti politique confondu, de la gauche à la droite, de la gauche de la gauche à la droite de la droite, est-ce qu'on leur promet le plein emploi pour demain? Ce que font tous les partis. On leur dit, écoutez, il n'y a pas de problème, demain, il y aura plein emploi. On a des solutions, évidemment, les solutions sont différentes en fonction des partis, mais entre ceux qui disent interdisons les licenciements, les autres qui disent mettons les Arabes et les Noirs dehors, les autres qui disent mettons un jeune et un vieux ensemble, ça va créer de l'emploi, etc. Bon, au final, tout le monde a ses solutions, mais la seule chose dont il est question, c'est le plein emploi pour demain. Sauf que ça fait 40 ans. Qu'on promet le plein emploi pour demain. Ce que proposent les intermittents, ce que disent les intermittents, c'est que pour sortir du chômage de masse, de cette situation de chômage de masse, il y a d'autres solutions. Il faut parler des droits des chômeurs, il faut parler du salaire socialisé, il faut parler de droits au salaire entre des emplois. Et c'est ça l'enjeu fondamental qui est posé par les intermittents, il me semble, et qui nous concerne tous, c'est-à-dire l'idée de construire un deuxième pilier du modèle social français, fondé non plus uniquement sur le salaire, l'emploi stable, mais qui soit adapté à l'emploi qui se développe aujourd'hui, qui est un emploi extrêmement instable, etc., etc.
Ben parfait, écoute, il me reste plus qu'à signaler que toutes ces propositions, on peut les retrouver sur le site, donc tu fais partie, j'ai oublié de citer cette casquette, mais tu fais partie de l'Institut Européen du Salariat qui développe notamment cette question du salaire à vie. Une des figures connues, c'est Bernard Friot, peut-être qu'il est plus connu aujourd'hui, mais voilà, toi tu es spécialiste sur le domaine de l'intermittence et tu montres très bien comment, en fait, d'une lutte sociale on arrive à une conquête générale pour tous, peut-être pour demain. Merci Mathieu Grégoire.
Merci à vous.
Et puis donc on te réinvite peut-être prochainement justement pour parler du salaire à vie sur les ondes de Canal Sud. Allez, on continue notre magazine tout de suite. On fait une petite pause musicale et on va essayer de se brancher avec les copains qui sont intermittents et qui sont en action en ce moment au Théâtre Garonne qui est occupé. On rappelle donc que le festival Rio Loco, la grève a été déclenchée, ou une grève partielle par les techniciens. 2 spectacles sur 4 ont été annulés ce soir. Demain matin se décidera la suite pour le festival, pause musicale avec l'intermittent, forcément, et puis on revient après avec les intermittents par téléphone sur Canal Sud 92.2, canalsud.net.
Moi, j'ai rangé intermittent comme ça, je pourrais glander souvent, t'aimer la vie et prendre le temps de faire la fête en travaillant. Moi, j'ai rangé intermittent comme ça, je pourrais glander souvent, t'aimer la vie et prendre le temps de faire la fête en travaillant. Mon père me dit fais gaffe, la musique est une drogue, si t'y touches une baffe. Va pas faire le guignol devant les minettes à la télé, si tu veux gagner ta vie tu ferais mieux de travailler. Ta mère en a voulu un qui était beau et plus sympa, elle voulait partir avec, je lui ai dit qu'elle pouvait pas. Clou-clou est un menteur et moi je suis bien pire, électricien n'est pas mon taf mais ça l'a pas fait rire. Moi quand j'ai branché intermittent comme ça, je pourrais glander souvent, t'aimer les filles et prendre le temps de faire la fête en travaillant. Moi quand j'ai branché intermittent comme ça, je pourrais glander souvent, t'aimer les filles et prendre le temps de faire la fête en travaillant. maintenant je suis un jeune vieux. Les poumons me font souffrir, je m'en moque encore un peu. La musique qu'on envie, tant qu'on se bouge le corps, sur du reggae music ou des chansons d'amour hors temps. Les voisins ne me parlent plus, ils aimeraient bien dormir. Charlie Oleg, formidable, ne s'arrête pas la nuit. Même quand on gueule au balcon, il vaut mieux en rire. Rien de pire que la musique quand c'est charmante de compagnie. Moi quand j'ai rangé un dernier temps comme ça, je pourrais glander souvent.
Allô, Déborah ?
Oui.
Bonjour, toi tu es intermittente si je ne me trompe pas ?
Tout à fait.
Voilà, est-ce que tu peux m'expliquer où tu es là actuellement ?
Alors complètement, nous sommes actuellement en occupation du Théâtre Garonne, étant donné que c'est le seul théâtre de Toulouse qui a décidé de ne pas se mettre en grève. Donc nous sommes actuellement sur la scène et nous avons fait annuler la présentation de saison. Et après la présentation de saison, il y avait un concert de Bernard Lubat, qu'on connaît tous très bien dans la région, et qui soutient le mouvement qui est solidaire et qui se met également en grève, donc il ne jouera pas ce soir.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous vous mobilisez, vous, à Toulouse, intermittent du coin ?
Alors, il faut savoir que la coordination, c'est une coordination nationale. Donc, on se mobilise à Toulouse, on se mobilise à Paris, on se mobilise partout en France.
D'accord.
Là, c'est parce que vous êtes certainement au courant, mais il va y avoir l'agrément le 20 juin, qui va être délivré par Monsieur Rebsamen. Et on se bat contre l'agrément, c'est-à-dire qu'on refuse cet agrément.
Donc, cet agrément, c'est ce qui va autoriser, ratifier en fait le nouvel accord sur assurance chômage qui a été signé le 22 mars par les syndicats et le patronat.
Exactement, tout à fait. Et pour nous, déjà, cet accord n'a pas été signé dans les règles, c'est-à-dire que cet accord a été signé dans les locaux du MEDEF, pas du tout avec la CGT qui était toute seule à la table des négociations. Et de plus, Rebsamen se cache derrière le fait que cet accord a été validé par les partenaires sociaux. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que l'agrément sert justement à invalider ce qui a pu être validé par les partenaires sociaux. Donc en fait, il se cache derrière quelque chose qui ne devrait pas se cacher. C'est sa force de pouvoir non agréer cet accord.
Alors depuis ce matin, on a appris qu'il y avait du mouvement du côté du festival Rio Loco. Il y a eu à Montpellier un festival, j'ai plus le nom en tête.
Le Printemps des Comédiens.
Voilà, le Printemps des Comédiens, pardon. Ouais. Où il y a la grève reconductible qui a été déclarée, je crois que c'était la semaine dernière. Cette fois-là, ça a tout...
Ça fait 7 jours.
7 jours maintenant. Et à Toulouse, depuis aujourd'hui, je crois que c'est à midi que la nouvelle est tombée, il y a une AG qui a décidé, technicien qui a décidé de voter une grève pour le festival Rio Loco. Mais c'est pas une grève totale.
Non, c'est pas une grève totale, c'est-à-dire qu'il y a un spectacle sur deux qui va jouer ce soir. Mais par contre, l'AG revote demain matin et le vote est libre demain, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une grève totale à partir de demain.
D'accord. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y ait pas une grève totale à partir d'aujourd'hui, juste pour information c'était très compliqué à mettre en place ?
Disons que je dirais que c'est quand même des gens... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on bloque pas et on annule pas par plaisir. On se met pas en grève par plaisir. Donc généralement, on a envie de le faire, notre métier. Et c'est ça aussi qui rend les choses compliquées. C'est-à-dire que c'est pas une évidence de se mettre en grève. C'est pas une évidence de pas jouer. Et les gens, ils ont des scrupules par rapport à ça. Et c'est normal parce que on a envie de partager ce métier avec le public. On n'a aucun intérêt à se mettre en grève et à faire des blocages. Et je pense que c'est aussi par rapport à ça que des fois, il peut y avoir de la balance.
D'accord, très bien. Demain matin, il y aura une assemblée générale
à 9h.
À 9h, sur la Prairie des Filtres, de quel côté ?
Tout à fait. Alors, vous rentrez par l'entrée Saint-Michel, ça se situe au niveau de la Seine Village, pour ceux qui connaissent un peu le Rio Loco. Et bien sûr, tout le monde est convié, les chômeurs, les précaires, les salariés, les intermittents, les intérimaires, les retraités, parce que cette décision, elle est pour tous, et c'est pas uniquement les intermittents.
C'était justement ce qu'on était en train de parler avec Mathieu Grégoire qui nous expliquait comment le statut, en tout cas la lutte des intermittents, concernait vraiment tout le monde. Quoi.
Tout le monde.
Qu'est-ce qui se passe là ? Tu peux nous décrire un peu ce qui se passe au Théâtre Garonne en ce moment ? Vous êtes combien ? Quelle est l'ambiance ?
Alors là, au Théâtre Garonne, on est à peu près 80-90. Ce qui se passe, c'est qu'on a investi les deux scènes, c'est-à-dire qu'on a investi la grande salle et on a également investi le studio. La présentation de saison est clairement annulée. Et le concert suivant est en soutien, donc ils seront en grève également.
D'accord. Et comment réagit l'équipe du théâtre ?
Je dirais que l'équipe du théâtre, au niveau de l'équipe technique, est en total soutien et complètement solidaire.
D'accord. On a vu aussi que le, on a appris ça, que le théâtre du Grand Rond, le Hangar, le Ring, le Chien Blanc, le Pont Neuf, la Cave Poésie, le Pavé et le Fil à Plomb ont appelé à la grève demain pour marquer leur refus aussi et en soutien aux intermittents.
Et on peut rajouter le Sorano, le TNT également.
Le Sorano et le TNT aussi, d'accord. Donc c'est vraiment général, quoi.
Voilà, demain, tous les théâtres de Toulouse apparemment sont en grève, tout à fait.
Ce qui est étonnant, c'est que cette mobilisation, elle dure depuis un certain temps, un certain nombre de semaines. Qu'est-ce qui explique que là, d'un coup, ça se mette à vraiment émerger et exploser partout, d'un coup, quoi, notamment à Toulouse?
Bah, je dirais que la saison commence, donc il y a la saison des festivals. Donc effectivement, c'est ce qui donne aussi cette impression d'explosion au niveau de la mobilisation. Mais moi, je rappellerai qu'on y est depuis janvier dans toutes les villes de France et que depuis janvier, chaque semaine, il y a des actions et que elles n'étaient pas visibles parce qu'on n'était certainement pas médiatisés à l'époque. Mais maintenant qu'il y a cette espèce de pression sur la menace de où va-t-on passer nos vacances cet été, dans quel festival on va pouvoir aller se promener, et bien effectivement, ça intéresse.
Ouais, et même sur nous à Canal Sud, c'était passé sous nos radars. En tout cas, voilà, désolé, on essaiera de faire mieux la prochaine fois.
je vous jette pas la terre.
Hein, non, bon, on est pas les pires généralement dans le sujet. Est-ce que tu as des nouvelles, toi ou d'autres, de ce qui se passe ailleurs, à Montpellier par exemple?
Bien sûr. Alors la grève a été reconduite ce matin à Montpellier. Ils ont revoté la grève pour 24 heures. Je peux dire également qu'il y a Chalon qui a voté la grève à 80%. Il y a également Nice, le crossover, qui a voté la grève. Et il y a certainement Aix qui va voter la grève dès demain. Et d'autres compagnies, notamment, j'ai perdu le nom, une compagnie toulousaine qui a également voté la grève.
D'accord. Est-ce que comment on réagit, parce que là c'est l'ouverture de Rio Loco ce soir, même s'il y a la grève partielle. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le public un petit peu, et comment réagissent les gens qui viennent voir les spectacles par rapport à vos actions?
Alors là, par exemple, pour le Théâtre Garonne, je peux te donner cet exemple-là, étant donné que j'y suis.
Ouais.
Je dirais que le public soutient totalement. Il se peut qu'il y ait d'abord une sensation de prise en otage, et puis ensuite, vu que ce sont des consommateurs et des amateurs de spectacles, effectivement, qui soutiennent le mouvement.
D'accord. Est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui va durer, qui va continuer longtemps?
Je pense qu'effectivement, c'est absolument pas terminé.
D'accord. Qu'est-ce que sont les prochains rendez-vous? Donc demain matin, on rappelle l'Assemblée Générale sur la Prairie des Filtres. C'est même ouvert aux non-intermittents, hein, tu précises bien.
Complètement. Je rappelle que c'est ouvert à tous les précaires, aux salariés, aux retraités, à tous ceux qui ont envie de se battre pour leurs droits sociaux.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des prochaines actions? On pourra vous retrouver
Oui, bien sûr. On aura une action jeudi et on aura une action également vendredi.
D'accord. Bah, on essaiera de suivre tout ça, en tout cas, sur Canal Sud. N'hésitez pas à nous recontacter, en tout cas, hein, si on reste pas assez vigilant, parce que voilà, c'est une belle lutte. Et puis un salut à tous ceux qui occupent en ce moment le Sorano, toutes ceux et celles.
Super, je transmets, merci beaucoup.
Merci à toi Déborah, donc intermittente avec nous au téléphone sur Canal Sud. Allez, on s'écoute une dernière petite chanson. Kemsa, salut à toi l'intermittent sur Canal Sud 92.2, canalsud.net.
Salut à toi l'intermittent, salut au spectacle vivant, salut à toi le comédien, salut à toi le musicien, salut à toi le jongleur, salut à toi le voltigeur, salut à toi le technicien, salut à toi le plasticien, salut à toi le créateur, salut à toi le danseur, salut à toi l'électro, salut à toi le machinot, salut à toi le régisseur, salut à toi le manager, salut à toi la photo, salut à toi le chapiteau, salut à vous les saltimbanques, salut à toi qui est dans ta planque, salut à toi le perchiste, salut à toi percussionniste, salut à toi le cadreur, salut à toi le réalisateur, salut à toi le graphiste, salut à toi marionnettiste, salut à toi et ton assaut, salut à toi qui est au plateau, salut à toi le décorateur, salut à toi le monteur, salut à toi le chorégraphe, salut à toi le scénographe, salut à toi le lighteux, salut à toi l'emploi jeune, salut à toi et ton camtar, salut à toi le RMA, salut à toi le gréviste, salut à toi l'accessoiriste, salut Salut à toi le cinéma, salut à toi le théâtre, salut à toi le RMiste, salut à vous tous les artistes, salut à toi le circassien, salut à tous les baladins, salut à toi le rôdi, salut à toi Kéo Catering, salut à toi qui maquille, salut à vous dans toutes les villes, salut à toi à tous les câbles, salut à toi le social, salut à toi le costumier, salut à toi le sondier, salut à toi l'étalonneur, salut à vous 507 heures, salut à toi le mort-vivant, salut aussi à tous les champs, salut à toi metteur en scène, salut à toi le Larsen, salut à vous les employeurs, salut à toi organisateur, salut à vous les cachets, salut à toi indemnité, salut à vous les fiches de paye, salut vos yeux et vos oreilles, salut aussi à tous les groupes, du Pas-de-Calais jusqu'au Languedoc, salut à vous les compagnies, salut à toi qui est verni, salut à vous tous les scripts, salut à toi le comique, salut à vous dans tous les cirques, salut à toi même Monique, salut à vous dans la musique, salut à vous le public.